bande originale, soyez les bienvenus avec Morgane Cadignan, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et dans un instant notre invité sera Pascal Arbillot.
Bonjour Pascal.
Eh ben bonjour, notre on a un retardataire, c'est Guillermo Guise. Bonjour Guillermo.
Pour l'inviter,
voilà, on se fait remarquer. Si on allume ton micro, ça sera encore mieux. On va parler dans un instant de Miss, un très beau film qui sort en salle ce mercredi le 21 octobre avec Pascal Arbillot qui est notre invité. C'est demain, tu as raison. Mais avant ça, on va jouer petit blind test. Le titre
Miss.
Et voilà, c'est Miss. Premier titre.
Ça va, ouais.
Morgane.
Jérémy. Oh, Mireille.
Renaud.
Ah ouais. Pas du tout, c'était la 7ème.
C'est quoi le titre ?
Miss Maggie.
Un point pour Morgane.
Bien joué, chérie.
On se concentre. Et titre suivant, c'est parti.
Ça a une vitesse.
Morgane.
Ouais.
Benjamin Biolay.
Bravo. Le titre ?
Miss Miss.
Bravo.
La meuf, elle a révisé, quoi.
Alors, non, mais bah c'est ma playlist.
Reste concentré.
C'est la dernière fois que je viens.
Mais reste concentré. Mais non, Tanguy.
J'ai mis du fric sur toi.
Tanguy, je suis sûr que le prochain, il est pour toi.
Non, non.
Vous êtes prêts ?
Ouais.
C'est parti.
Jérémy, miss you.
Guy, non, non.
The Rolling Stones.
Ah, j'ai dit
qui a dit en premier, en régie, s'il vous plaît,
j'ai
parce
entendu
que...
Tanguy, moi. J'ai entendu Tanguy.
Non, non, c'est Guillermo. Moi, je lui donne le point, parce que je m'en fous, en fait, de gagner.
Oh, le mépris, mais le mépris.
Mais non, c'est vrai.
Merci, il a donné le point, vous entendez.
Je te le donne, Guy.
Je lui donne.
C'est Tanguy qui te le donne.
Je participe comme ça.
Bravo.
Excellent, excellent pas de côté. Miss you. Ouais.
Deux points pour Morgane,
ouais, mal,
un point pour Guy qui ne se respecte donc pas.
Non.
Et prochain titre.
Guy.
Ouais.
Bah
vas-y.
Mais oui, c'est.
Vite.
Jérémy.
Jérémy.
Non.
Ouais, bah trop tard, mon gars.
Ouais, trop tard, mec.
Missy Elliott, un point pour Jérémy Crédville, un point pour Guillermo Guise, deux points pour Morgane,
quand
Daniel,
même.
Tanguy, on se réveille.
Moi, je me réserve pour le Super Banco.
Prochain titre.
Jérémy.
Ouais.
C'est K. Comment s'appelle
Mademoiselle K.
Bravo, voilà. Mademoiselle K.
Il est où le Miss
Mademoiselle.
Miss Mademoiselle.
Oh oui.
Oh bah il fallait une
petite. Qu'est-ce que tu fais?
Une petite variante.
Non, Guillermo, tu gardes ton franc.
Guillermo, assieds-toi s'il te plaît. On veut pas te voir.
Il enlève son pantalon, c'est vrai. C'est immonde.
Deux points pour Jérémy, deux points pour Morgane, un point pour Guillermo. Encore deux titres.
Ok.
Le prochain vaut encore un point. C'est parti.
Daniel.
Ouais.
Bah là, ouais, hein,
Miss Baguette.
Ouais.
Cette chanson, on sent.
La chanson, quand même.
On sent sûr. Elle est en noir et blanc, cette chanson. Ah, on la sent en noir et blanc.
C'est sa sonnerie de réveil.
Je voulais que Daniel marque un point. J'étais sûr.
Le diamant se posait sur lui.
La dernière fois qu'il a fait une grosse teuf, c'était sur cette chanson.
J'ai déboîté, je peux te le dire. J'ai déboîté.
Changement d'ambiance.
Pour la
le
dernière.
Super Banco.
Okay.
C'est contemporain. Vous êtes prêts?
Ouais.
Jérémy.
Ouais.
Ah merde, c'est Lenny Kravitz?
Non.
C'est 16.
Non, c'est pas le riff de 16.
Voilà.
Ça, c'est pour toi, Guy.
Ah,
c'est toi,
stupid.
DJ.
C'est vachement bien, ça. On va attendre qui parle.
Un petit indice, elle est grenobloise, elle est DJ.
Jérémy.
Ouais.
Miss Kittin.
Ah. C'est pour qui? C'est pour Guy le point.
Ah ouais, c'est, pour Guy.
C'est pour Guy. Victoire de Guillermo Guise.
C'était laborieux.
Oui,
c'est pas la plus grande victoire.
Et on accueille sur Miss Kittin Pascal Arbillot, s'il vous plaît, les amis.
France Inter.
Pascal Arbillot.
Bande originale. Leïla Kaddou.
Bonjour Pascal.
Leïla.
Soyez la bienvenue à ce micro. Comment ça va?
Très bien.
Ouais.
Moi, ouais, très bien.
On va parler ensemble d'un très beau film qu'on a eu la chance de voir autour de la table. C'est Miss de Ruben Alves qui sera en salle demain.
Demain.
Une sortie avancée, quelques petits éléments sur la sortie de ce film. Il était prévu le 11 mars.
Ouais.
Les événements ont fait que, avec la pandémie, le Covid, il a été repoussé au 23 septembre.
Ouais.
23 septembre, encore une fois, repoussé au 28 octobre.
28.
Et finalement, il a été avancé d'une semaine. Est-ce que vous savez pourquoi, Pascal?
Ça a été une décision qui a été prise il y a très peu de temps, dimanche. Il y a eu une réflexion sur est-ce qu'il n'y avait pas une forme de panache aussi à sortir. Alors, c'est le début des vacances scolaires, mais c'est aussi soutenir les salles. Faire un acte d'existence.
Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi prudent de faire ça maintenant pour éviter peut-être à venir un confinement total ?
Ça, je sais pas. Je pense que je vous jure que avancer, c'est pas non plus facile.
Mais c'est pas la première démarche. C'est pas,
c'est pas un coup. Enfin, franchement,
c'est courageux. Et
c'est courageux. Ouais. C'est surtout que c'est aider vraiment les salles aujourd'hui qui manquent une séance à une heure près.
Ouais.
Et les conditions aujourd'hui politiques sont compliquées. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave vendredi aussi. Ne l'oublions pas.
Ouais.
Et je pense que ça reflète le sujet du film qui est quand même aussi parle de beaucoup de courage.
Absolument.
Et ça reflète complètement l'ambition de Ruben, sa liberté et son envie d'unir, de réunir les gens autour de quelque chose. Et là encore, et le cinéma, la culture, c'est un acte d'union.
Et c'est un film sur le courage, en effet, la différence. C'est une comédie.
C'est une comédie, c'est une volonté de traiter la question du genre à travers le parcours d'une personne, d'un être unique qui veut juste être lui-même.
Et le film s'ouvre par une séquence qui nous rappelle plein de souvenirs à tous, des enfants qui défilent devant un tableau noir. Ouais. Quand je serai grand, je serai. Et chacun exprime son souhait. Ouais. L'une veut être présidente de la République, l'autre joueur de foot. Une autre hésite entre star et boulangère. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas.
Meilleur pâtissier.
Et le dernier petit garçon, lui, exprime son souhait. Lui, il veut être Miss France.
Et ça fait rire tout le monde.
Et ça fait rire tout le monde, et on voit la peine sur le visage de cet enfant qui avait un peu de lumière tout d'un coup.
Oui, exactement.
Et tout s'assombrit.
Ouais.
Et c'est le départ de ce film.
C'est le départ de ce film. Et c'est le départ de la rencontre entre Ruben, qui justement a rencontré Alex Vetter, a trouvé qu'il avait une telle grâce, une telle lumière, une façon de parler de sa féminité. Et il a voulu, en fait, finalement, le plonger dans un univers qui est a priori normatif sur la féminité, qui est Miss France.
Miss France.
Et le choc des deux est merveilleux. Il y a plein de personnages secondaires, plein de...
Eh bien, on va en parler avec vous, parce que vous faites partie de ces personnages essentiels, le personnage d'Amanda. Mais juste pour resituer un petit peu le film, Alex, donc, ce petit garçon qui rêvait d'être Miss France, un jour arrête complètement de rêver, un événement traumatique se passe, il perd ses parents.
Ouais.
Et quand il se retrouve jeune adulte, il est là, un peu en galère. Il vit dans une sorte d'une maison où il y a plein d'habitants différents.
Ouais.
Qui est tenu par Isabelle Nanty.
Ouais.
Et il retrouve un copain d'enfance qui est devenu boxeur, qui lui a réalisé son rêve.
Ouais, exactement.
Et ça lui donne envie de se replonger dans ses rêves d'antan et de devenir Miss France.
Ouais, et de tenter l'expérience avec une famille d'adoption.
Sans pour autant dire qu'il n'est pas une femme.
Non.
Voilà.
Non. Ça, il veut juste participer au concours.
Et
après, il doit obéir aux règles du concours, qu'il doit porter des
règles,
robes.
Et être une femme.
Et être une femme, bien sûr.
Mais c'est une des règles.
Et en tout cas, exprimer Pascal sa féminité.
Pour l'instant.
Et il explique ce jeune héros qui est en quête de soi. En fait, c'est un film sur se chercher.
C'est un film d'émancipation. Ouais. C'est comme la Reine des Neiges qui, d'un coup, se trouve en voulant s'affirmer, se trouve elle-même et finalement est confrontée aussi à ses propres limites sur le regard des autres. S'émanciper du regard des autres aussi.
C'est ça, grandir, se trouver, se réaliser et devenir, en tant que femme, il se sent plus fort.
Oui.
Ça, c'est la phrase essentielle. Qui, je crois, est celle d'Alexandre Vetter, le véritable individu.
Et qui, en vivant en fait, cette expérience, finalement, aujourd'hui, dit aussi qu'il retrouve son masculin. D'un coup, il a envie de... En tout cas, c'est la liberté. C'est que le masculin et le féminin font partie de nous, et pas de manière normée. Et ça peut changer, ça peut évoluer. Et je trouve que c'est une très, très grande leçon sur l'unicité et le respect qu'on doit à nous tous, individus, faisant partie d'un tout.
Et ça tombe très bien.
Ça tombe très très bien, je trouve.
On va dire, ce discours-là. Ce jeune homme va donc concourir pour, dans un premier temps, devenir Miss Île-de-France.
Il suit les étapes.
Il suit toutes les étapes
de sélection.
Il pète même un câble, il devient tout d'un coup, il se prend pour...
Il
a plein de followers, il devient...
Les réseaux sociaux, il a une certaine notoriété.
Il tombe dans le...
Sa famille d'adoption qui l'aide à justement développer les réseaux sociaux, une famille d'adoption qui est formidable,
qui est
tellement bigarrée et formidable.
Oh là là. Et ben nous aussi autour de cette table on est un peu bigarrés parce qu'on a différentes Miss.
Alors là le gars,
on a décidé d'être des Miss. Je donne la parole tout de suite à Champagne Ardenne.
Oh, c'est ma région.
Champagne Ardenne, alias Guadeloupe aussi, hein, parce que c'est un peu un melting pot.
Enfin, hein,
c'est Morgane Cadignan.
On choisit un peu.
Bego.
J'ai pas précisé que, en Champagne Ardenne, on voulait faire un effet. Elle n'aime personne, elle ne vous aime pas non plus, Pascal Arbillon.
Surtout vous.
Surtout.
Ah, c'est pour ça Champagne Ardenne, je viens de comprendre. Oui. C'est parce que c'est moi, je suis là.
Non, c'est parce que malheureusement j'ai grandi là-bas.
Pascal, vous n'avez rien compris.
Pascal Arbillon, je vous aime pas. Oulala, mais alors. Pour une seule raison. Ouais. C'est, non, une seule raison toute petite, c'est que pendant vos études de théâtre, vous avez été documentaliste dans un CDI. Oui. Et ça m'a trop renvoyé à la documentaliste de mon collège, mais que j'aimais pas du tout. Déjà, le principe du CDI, se foutre à 15 autour d'un ordi pour essayer d'aller sur des sites porno, je vois pas bien la différence avec ce qu'on fait à la rédaction. Et en plus, moi, ma documentaliste, elle nous empêchait de reproduire ce qu'on voyait sur les sites dans les allées du CDI. Donc, aucun intérêt. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'amour la tête contre une biographie de De Gaulle avec quelqu'un qui vous dit chute toutes les 5 minutes. C'est pas agréable, hein. T'as plus vite fait d'aller sonner chez Gérald Darmanin directement. Et puis, de toute façon, la 6e, c'est rarement la meilleure année. Après, vous étiez documentaliste à mi-temps. Donc, vous n'avez sûrement été qu'à moitié chiante. Mais quand même. Et pour continuer dans la loose, j'ai lu un peu des interviews de vous. Vous dites que pendant un certain nombre d'années, vous êtes tombée amoureuse de Colin Firth. Et ça tombe bien, Pascal. Parce qu'il
n'est pas là du tout.
Non, je vois pas bien ce qu'il viendrait foutre ici, hein, honnêtement. On l'a appelé, on a dit Pascal Arbillot, etc. Mais lui aussi, on lui a interdit le coït à la bibliothèque il y a quelques années. Donc il a refusé. Mais en remplacement, on a Jérémy et Guillermo. Et on n'aura pas mieux.
Je les vois pas bien, mais.
C'est vrai. Non, mais ils sont beaux, hein. Je suis pas bonne en calcul, mais un Belge et un mec du Nord, ça fait presque un Anglais. Au moins. Au moins en quantité d'alcool et autres dans le sang.
C'est vrai.
En parlant de chômage, vous dites que quand vous ne jouez pas, vous glandez à mort. Et je vous cite, je redeviens une ado, je fais mes cours sur Oura.fr en pyjama, j'écoute Billie Holiday sur Deezer et je lis, j'ai une passion pour Albert Camus. Alors, je pense parler au nom de tous les ados du monde en disant que non.
Ils disent non. Ils ne sont pas livrés des parents.
Aucun non, mais Pascal, aucun ado ne fait ça. La seule ado qui a une passion pour Albert Camus, c'est à la limite Maria Cazares. Et vous êtes trop jeune pour être Maria Cazares. Alors oui, j'ai un tout petit peu de culture. Mais à force de ne pas pouvoir baiser à la bibliothèque, il y a bien un moment où on se mêle. Hein. Bah non, mais regardez Guillermo, il nous parle de Sapiens.
Il faut vraiment aller en bibliothèque avec quelqu'un.
Mais regardez, Guillermo, il nous parle de Sapiens toutes les semaines parce qu'il a arrêté le sexe il y a seulement un mois. Alors oui, il a très mauvaise mine, mais il faut l'entendre parler de Montaigne. Hein. Ça vaut le détour. Et pourtant, en 2011, vous persistez en déclarant « Je regarde la télé la nuit comme une ado attardée. »
C'est vrai, d'accord, ok. J'ai un problème, mais on va en parler.
Mais qu'est-ce que vous regardez ? J'adore les rediffusions de C'est dans l'air d'Yves Calvi. Alors,
non, je sais, j'ai même dit j'étais amoureuse d'Yves Calvi. Je crois que je fais une émission la semaine prochaine. Je suis très gênée.
Mais c'est
très emmerdée.
Mais
en tout cas, lui, c'est gênant. Il vous attend.
Ouais, j'imagine.
Nous aussi, on est gênés, je vous rassure.
Je sais pas pourquoi.
Vous avez dû naître à 35 ans pour être ado. À 5 ans, je vois pas d'autre solution. Non, mais j'ai fait le test, les amis. Moi, j'ai une sœur ado qui a 18 ans et je lui ai dit Yves Calvi. Elle m'a répondu ah ouais, bête de festival en Corse. Yves Calvi on the rocks. Personne n'achète de place. Enfin, pour finir. En parlant du passé, vous avez confié en interview cette même année que vous adorez France Inter, que cette radio rythme vos journées et que vous adorez vos rendez-vous.
J'ai écouté, il y avait Jérémy Régnier, j'étais là, je me suis dit bizarre, j'étais dans le poste après. Ah ben bien sûr.
Ouais, mais alors attendez,
qu'est-ce que j'ai dit comme connerie?
Parce que vous avez précisé, j'adore mes rendez-vous avec Patrick Cohen et Pascal Clark. Alors. Asseyez-vous, faut qu'on vous parle. Ça a un petit peu changé. En même temps, un Daniel et une Leïla, ça vaut bien, Patrick.
Mais bien sûr.
Qu'est-ce que t'es mieux.
Mais évidemment.
Merci Morgane.
Merci Miss Champagne.
Merci, oui, absolument. Et il y a cette musique, forcément, qu'on a envie d'entendre quand on parle de Miss.
Jean-Pierre Foucault rentre dans ce studio. Comment ça va tous? Oh, joli.
De pire en pire, les imitations.
Parce que ce très beau film de Ruben Alves se passe en effet dans ce contexte de l'élection de Miss France. J'ai pas parlé du casting. Alexandre Véter qui signe une performance extraordinaire. Il faut quand même le souligner. J'associe aussi à ça Thibaut de Montalembert.
Oui.
Thibaut de Montalembert qui incarne Lola.
Comme vous ne l'avez jamais vu.
Un travelot. Magnifique.
Ouais.
Merveilleux.
Qui guide finalement le personnage d'Alexandre Véter.
Comme
un Jiminy Cricket aussi qui peut. Ils ont une conversation qui est même bouleversante.
Mais à pleurer.
On tombe pas dans le cliché, ça c'est
jamais.
Important de
tous
le dire dans ce film.
Détournés.
On est dans
tous
une comédie, on est dans un. On dit souvent un feel good movie. C'est un film qui fait du bien, c'est un film qui fait sourire. Mais qui ne fait pas que sourire, parce qu'il y a quand même pas mal de moments d'émotion.
Je trouve pas que ce soit un feel good movie.
C'est vrai?
Non, les choses sont dites. Il n'y a pas de pathos une seule seconde.
Mais c'est pas forcément pathos,
imaginez.
Mais on
ne
tombe pas dedans, c'est ce que je veux dire.
Non, jamais, parce qu'on suit des personnages. On suit des parcours, on suit des humanités, puis on suit des acteurs merveilleux. Et en salle, c'est fou à chaque fois qu'on a été en tournée. Là, on aurait aimé refaire une tournée, c'est pas possible, mais on reste une heure, deux heures
à discuter.
Debout et on discute, tout le monde discute. C'est incroyable.
À l'affiche aussi Isabelle Nanty, Stéphie Selma qui incarne.
Stéphie Selma qui fait justement là. la compétitrice, la bitch, comme elle le dit elle-même.
C'est ça, qui...
Et qui elle aussi s'émancipe de sa propre combativité et de son envie de gagner.
Et votre personnage, dont on n'a pas encore parlé, Pascal Arbillot, c'est Amanda. Amanda qui gère un peu toutes les Miss. Qui s'occupe de leur formation.
Du comité Miss, elle qui les prépare.
Qui les sélectionne aussi.
Qui les sélectionne et qui les accompagne aussi. Et c'est une figure alors, maternelle qui est différente de celle d'Isabelle Nanty, qui est protectrice et refuse même
les concours.
Elle est plutôt finalement dans le système et elle est dans l'exigence, dans une forme de modernité, une envie de tirer le meilleur.
Et déjà,
elle voit, c'est quelqu'un qui a une droiture. Ouais. On ne connaît pas sa vie, elle est un peu opaque. Moi j'aimais bien ça. On ne sait pas qui c'est cette femme.
Elle n'a pas vraiment de vie, on a la sensation.
Non, on ne sait pas qui c'est. Mais ce qui compte, c'est le regard qu'elle a sur Alex.
Et
c'est
elle arrive, première apparition, elle est quand même très, très chic, très stricte, très dans les codes.
Oui, ah ben oui, elle est absolument dans le système.
Oui.
Elle fait comme de. Elle est dans le système et on est tous dans le système. Après,
On compose avec...
On compose, ou alors on doit être activiste et à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur du système.
Et elle est redoutée par les Miss, puisqu'elle incarne cette autorité, et elle est quand même capable de poser un regard bienveillant. Elle cherche...
Elle cherche le meilleur.
Il faut dire que le comité Miss France est un peu dans une crise, c'est-à-dire qu'on sent que potentiellement la ménagère ne va pas être au rendez-vous si on ne propose pas un spectacle de qualité, si on ne propose pas aux Miss de faire un voyage. Généralement, les Miss partent en formation au soleil,
c'est
dans des cadres...
Oui, il y a une pression pour comment s'adapter, comment être moderne, comment parler d'aujourd'hui.
Et votre personnage trouve quelques astuces de communication.
Oui, c'est vrai. Elle part sur les plages. Elle déçoit tout le monde d'ailleurs parce qu'elle parle. Ils partent en Belgique. Et
pour nettoyer les plages.
Nettoyer des plages. C'était à la fois absurde et en même temps. Oui,
c'est quand même une lecture assez à second degré, voire péjorative des élections de Miss.
Bah, pas du tout. Je
pas
crois
pour
que justement,
vous
pas du tout. Justement, ça pose un regard parce que tout est cliché. Et moi, je trouve que même moi, j'avais peur de me dire qu'est-ce que je vais jouer, comment je vais jouer ça. Oui, Miss France, on pourrait dire que ça n'est plus moderne. C'est quoi cette vision de la femme? En même temps, Miss France, pour moi, c'est un marqueur de vraiment de l'évolution de la société et de la féminité. Est-ce que le bikini a été à une époque un instrument de liberté? Aujourd'hui, on dit que c'est un regard masculin, dégradant.
Sexiste.
On ne parle jamais du coup du point de vue des femmes, et y compris du point de vue des femmes qui sont à l'intérieur de ce. Et moi, j'ai rencontré des Miss. Ce sont pas que des femmes qui veulent, c'est pas que des objets. Et elles sont là aussi pour autre chose. Beaucoup sont beaucoup plus fragiles, complexées, et pour elles c'est une façon
de devenir quelqu'un.
De devenir quelqu'un. Personnage, et après que ça passe par Miss France, par plein d'autres choses, il faut pas avoir, parce que sinon il y a une forme de mépris. Mais moi-même que je peux avoir, mais qu'on a touche partout aujourd'hui. Je lis en ce moment le roman d'Alice Coffin.
Oui.
Moi, si j'écoute juste, si j'ai une vision extérieure, j'entends quatre phrases, j'entends les hommes parler d'elle, je me dis, ouais, il y en a marre de ces femmes, là, là, là. Puis je lis son bouquin.
C'est pas du tout ça.
Mais c'est pas du tout ça, c'est merveilleux.
Et elle c'est parle important que vous en parlez d'Alice Coffin.
Elle parle de sa relation amoureuse, elle parle de l'objet, enfin, elle parle du journalisme, mais c'est le contraire. Alors après, qu'elle s'exprime peut-être, c'est difficile de parler en public. Peut-être il faut poser la question après, qu'est-ce qu'on fait en politique? Est-ce qu'on rentre dans le système? Ou est-ce qu'on reste activiste.
Mais ce qui est important, Pascal Arbillot, c'est que vous parlez d'un livre que vous avez lu, contrairement
je pense
à beaucoup de gens qui en
ont
parlé.
Je ne connaissais pas Miss France. Moi, je ne regardais pas Miss France. J'ai passé tout le tournage avec des Miss, des anciennes Miss, des futures Miss. J'ai rencontré Sylvie Tellier
qui sera avec
qui
nous dans un instant.
Que je vois au loin. Franchement, on peut tout critiquer.
Ça a changé votre regard sur les Miss.
Évidemment, évidemment. Mais il faut toujours se poser la question, toujours aller voir avant de parler, toujours lire avant de critiquer. Je comprends pas. Aujourd'hui, tout le monde a un avis. Moi, je n'ai pas d'avis en ce moment. Vu tout ce qui se passe, je lis, j'écoute, je réfléchis. Je me dis, moi, à mon niveau, comment ne pas m'auto-censurer et en même temps ne pas vouloir absolument dire ce que je pense. C'est fou, quoi. C'est fou. Et Miss France, c'est l'exemple type. Mais il y a eu un autre débat pour le Tour de France. Il y a eu un autre débat. Enfin, c'est
pour les femmes qui remettent les récompenses et qui embrassent les champions
sur
les
chose.
Pour les cyclistes en bikini.
Mais ça, c'est autre chose. Il faut, à l'intérieur aussi, il faut s'auto, en revanche, critiquer.
Oui.
Il faut se remettre en cause soi. Et comme la France doit s'auto-critiquer aujourd'hui sur la colonisation, pour pouvoir parler de tolérance aussi religieuse, enfin, il faut tous faire son autocritique. Mais pour avoir après le droit à la parole et à la lumière et le droit d'écouter et de s'exprimer. Moi,
Mais vous êtes un parfait exemple en parlant de ce film, du débat que ça peut créer. Je rappelle juste que le livre d'Alice Coffin, c'est Le génie lesbien, on l'a pas cité.
C'est magnifique, c'est bouleversant, sans
lisez-le
déconner.
Pour vous
et moi,
faire
je suis la première à dire aussi, j'en ai marre qu'on tape sur les hommes.
Bah, lisez-le avant d'en parler.
Voilà, c'est un peu la règle.
Ouais, la base. Et après, il y a des choses à l'intérieur, je suis pas d'accord avec. Ouais. Et Miss France, peut-être, à l'intérieur, le système est... Et même, il y a eu des années où on sait qu'il y a des filles qui étaient plus compétitrices, qui n'étaient pas sympas, et des années où Sylvie Tellier elle-même le dit, il y a une solidarité, il y a une... Franchement...
Vous regardez les élections
et
avant...
Et c'est encore
Miss...
juger les femmes, c'est
Pascal
pas elle qui parle.
Vous...
Interrogeons les Miss France, demandons-leur ce qu'elles en pensent. Pourquoi elles viennent là.
Ouais. Et vous leur avez demandé, vous en avez mais rencontré pour préparer le film.
Évidemment, c'est extraordinaire. C'est le contraire de ce qu'on attend.
Demain, on vous demande de participer au jury des Miss France, vous acceptez? Parce que alors, vous avez découvert un peu le milieu.
Je me sens pas. Alors pour le coup, je sais pas. Ça c'est pas. Alors, alors là, je me suis pas posé la question du tout une seconde.
Ah, parce que quand même, dans le film, vous êtes la grande
c'est vrai,
spécialiste.
Mais pourquoi pas. Mais je suis pas assez. Je sais pas. Ça alors là. C'est comme si vous me demandiez.
J'ai l'impression de vous donner.
Ouais, ce serait, en même temps, ce serait génial. Mais ce serait. Enfin, je sais pas. Laissons Sylvie Tellier en parler tout à l'heure.
Vous l'avez compris avec Pascal Arbillot, c'est un film qui va vous faire discuter, qui va vous faire sourire, qui va
surtout rêver. Et on a envie alors c'est horrible, on a envie de se faire des câlins après, les gens pleurent, j'ai vu des mecs, mais dans un état, voulant discuter, 10 ans aussi, moi j'ai venu, j'avais pas envie de venir, moi Miss France, ça me plaisait pas. Et c'est pas ce qui se passe à la fin,
c'est Louis de Funès ou Pascal Arbillot.
C'est un film d'humeur aussi, c'est un film qui fait du bien,
un film avec, de câlin,
avec une bande originale aussi qui donne la pêche. Alice Merton, Roots, qui accompagne le ramassage des déchets sur la plage en Belgique, avec des Miss complètement désespérées, qui rêvaient de soleil, qui rêvaient
de
maillots de bain et de calme. Pas du tout, c'est un film, je le répète, qui fait du bien.
N'imaginez pas l'ambiance sur le plateau, on est tous encore, on a envie de se revoir, tous les techniciens, les acteurs. Ruben est un mec qui vous emporte.
Ouais.
Et je le remercie à vie de m'avoir emporté dans cette histoire, vraiment.
Comment il vous a présenté le projet? Vous avez accepté tout de suite?
Oui, j'ai eu très peur au début de jouer ce personnage, mais...
Comment il vous l'a présenté?
Ah, il m'a dit, j'ai rencontré un garçon merveilleux et j'ai envie de faire un conte populaire sur ce thème-là. Et voilà, de parler de la liberté d'être soi et du droit d'être différent. Et c'est un thème, moi, mais de le faire d'une manière joyeuse.
Vous aviez peur, parce que c'est forcément...
Moi, j'avais peur du cliché, évidemment. Moi,
le réalisateur parle d'androgynie, parce qu'il n'est pas question de changement de sexe
pas
dans ce
tout.
Film.
C'est un garçon qui explore sa féminité.
Et qui se sent plus fort en femme.
Voilà. Oui, voilà. Mais c'est pas... Il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses possibles. C'est un film qui parle du courage, de la famille aussi, celle qu'on a et celle qu'on
construit.
Qu'on se construit. Ça parle de l'authenticité, ça parle de plein de choses, de toutes les formes de féminité.
Oui.
Et Ruben, quand on le rencontre, on dit oui à ce qu'il est. Et puis, il a fait la cage dorée aussi. Il a déjà abordé de manière joyeuse, populaire, mais dans le bon sens, dans un truc large et qui peut être diffusé.
Et parmi vos partenaires de jeu, Pascal Arbillot, il y a Isabelle Nanty.
Isabelle Nanty, que j'aime d'amour, que j'embrasse fort, et qui est la maman d'adoption, et elle a peur.
Qui incarne votre pendant. Êtes un peu opposée, c'est-à-dire qu'elle considère que les élections, classer les gens, ça n'a pas de sens.
Oui, c'est vrai.
Elle dit même que c'est des concours de caniche pour elle, dans le film, son personnage en tout cas. Et vous vous opposez, vous avez une scène d'ailleurs où chacune argumente dans son sens pour expliquer que les Miss France c'est pas rétrograde, c'est pas une vision négative de la femme. Une partenaire de jeu comme Isabelle Nanty, j'imagine que ça aussi c'est des raisons pour accepter de faire un film.
Évidemment, en plus je la connais dans la vie, je l'aime follement. Je trouve que c'est une personne très vraiment rare.
C'est marrant parce que vous êtes opposé dans le film, mais vous vous ressemblez quand même. Vous êtes
c'est vrai.
Très dur. Très très durs au départ, mais au fond, quand on creuse un peu, il y a beaucoup de tendresse.
Oui, mais tous les personnages sont clichés. On voit même le personnage de Lola, a l'air joyeux et après il craque. Stéphie a l'air d'être une peste et elle devient la plus fervente protectrice du personnage principal. Et Isabelle, Isabelle, c'est une actrice que j'admire. Et en plus, elle a un regard sur les acteurs, sur les autres. Elle met en scène, elle est extraordinaire.
Et elle est bienveillante dans son regard.
Elle est bienveillante. Et c'est un personnage bienveillant dans le film, mais qui finalement empêche son enfant d'adoption de réaliser son rêve. Et lui dit, écoute, finalement, et c'est ça. Il faut à la fois être exigeant, mais pas...
Oui. Et ceux qui incarnent,
laisser grandir.
Et ceux qui incarnent le côté négatif, en réalité, c'est la communication. C'est le
marketing.
Le marketing, c'est ceux qui cherchent.
Ceux qui cherchent à faire de l'audience, qui cherchent à... Oui, mais ça, après, c'est...
Y a c'est une aussi économie. Une critique d'une forme...
Oui, après, il y a une économie dans tout. La culture est aussi une économie. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus opposer santé, culture, culture, santé, santé, culture,
et qu'il faut
culture,
aller au
économie. Cinéma. Et surtout, moi, j'ai du mal. Je sais qu'aujourd'hui, les temps sont durs. Il faut aller au cinéma. On aurait aimé avoir une heure de plus, je vous jure. On aurait aimé avoir cette heure de plus ou ce droit à pouvoir aller à l'avant-dernière séance pour sauver... des salles, sauver de l'emploi, parce que la culture, c'est de l'emploi. Après, on comprend, il faut être solidaire, il faut porter son masque. Mais quand je prends le métro, et je l'ai pris pas plus tard ce week-end, pour aller à la manifestation, je l'ai pris pour aller à la République.
Ouais.
Et il y avait plein de gens, voilà.
Pour et, Samuel Paty.
Tous les membres étaient masqués, et tout le monde avait un téléphone. Et je me suis dit, quel est l'outil le plus liberticide aujourd'hui? Est-ce que c'est le masque qu'on porte ou est-ce que c'est le téléphone qu'on regarde, qui fait qu'on ne se parle pas, qui fait qu'on s'exprime tout seul? Et je me dis, aller au cinéma, c'est aller au théâtre, c'est aller dans un endroit où on est côte à côte. Alors, un peu éloigné maintenant, mais on partage quelque chose ensemble. Et c'est la culture, c'est aussi la santé, et la santé psychique, c'est comment vivre aujourd'hui.
C'est rire ensemble, c'est se faire du bien ensemble.
Qui disait qu'il fallait maintenir un budget de la culture en temps de guerre, parce que sinon pourquoi on
les règles sont particulièrement bien respectées dans les théâtres.
Mais tellement, il
n'y
a pas eu un cluster, il n'y a pas de contamination. On aurait aimé juste un peu, peut-être d'anticipation, de discussion avant. Après, on comprend, on peut, si demain il faut se reconfiner, on le fera tous, au fond. On le fera tous. Mais là, il se passe... Ça peut être grave pour le cinéma, pour le théâtre, les salles de concert, ça peut être grave. Et on aurait aimé en parler avant.
Vous avez entendu le message en salle dès demain. Il y a déjà d'autres films qui sont en salle.
Il y a des séances à 8h. Nous, on va être plein à 8h, je crois, au M4 de Bibliothèque qui nous soutient. Il y a beaucoup de réseaux qui nous soutiennent après 9h.
Allez au cinéma.
Allez au cinéma,
allez
retrouvons-nous
voir des
à distance.
Et
ne
on vous invite, Pascal, à aller voir Miss de Ruben Alves.
Oui, s'il vous plaît.
Avec Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert, Stéphie Selma, Alexandre Véter et vous, Pascal Arbillot. Il est temps d'accueillir Guillermo Guise.
Oui.
Je me suis auto-applaudi.
Oui, t'as fait, Allez, Miss Belgique.
Allez, ça va, les amigos?
Ouais, super.
Et vous me connaissez, moi je suis le type le plus positif de sa génération. Vas-y, ma sonnerie de téléphone, c'est Suzette de Danny Briand. C'est pour ça que je décroche jamais. J'aime trop la chanson, je la laisse toujours en entier. Il perd la raison chaque fois qu'il voit Suzon. Non seulement il y a la rime riche, et en plus il y a un petit côté mambo. Moi, je suis une boule d'enthousiasme. J'ai déjà maté deux films des Frères Dardenne de suite. Regardez mes veines, intactes. J'ai même pas essayé de tailler dedans, alors que j'ai un Opinel dans un réduit. Franchement, il m'en faut beaucoup, moi, pour me déprimer. Mais là, c'est chaud quand même. Il y a plus rien pour se réjouir. Le JT, ça donne envie de crever dans un osso buco. Même quand c'est Leïla qui présente. Normalement, quand c'est Leïla est présente, au moins je pense Poppers, grosse fête qui dérape. On vole un lama dans un zoo, on le peint en vert, on le ramène à Radio France. Ça fait passer la pilule digitée. Mais là, c'est le cafard, quoi. Enfin, cafard complet. Limite, vous, en France, ça va encore. Vous avez gagné l'Euro 2000. Ouais, niveau moral, vous surfez encore sur le Golden Goal de Trezeguet, tu vois. Mais nous, en Belgique, on n'a jamais rien gagné. Mais en plus, depuis hier, on n'a plus de bar et on n'a plus de resto, rien du tout, quoi. Ici, OK, vous avez le couvre-feu à 21h, mais il faut juste quitter le resto à 20h30. Et quitter le resto à 20h30, franchement, ça se fait. En général, quand t'as 8 ans et demi. Vraiment, en mode l'addition. Si vous voulez, demain matin, j'ai école. Enfin, ça ne gérerait pas que je rate mon contrôle sur les triangles isocèles. Mais c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a plus de resto du tout. C'est fermé pour un mois. Et moi, je vais devoir me refaire à manger. Vous avez vu Cauchemar en cuisine? Bah, c'est la même émission sans Philippe Etchebest. Et j'en reviens jamais, quoi. J'ai les bases, hein, et tout ce passage. Je sais que les pâtes, c'est cuisson 20 minutes et tout, pas plus al dente. Voilà, toujours attendre la dernière minute pour mettre le poivre dans l'eau. Ça va, c'est bon, j'ai vu Top Chef et tout. Moi, j'ai 2-3 plats signature. L'œuf mollet devenu dur. Les miettes de cabillaud, sans vraiment qu'on voulait les miettes. Le tiramisu à boire. J'ai des potes. J'ai des potes, ils mangent chez moi. Ils me font putain, j'ai le Covid. Puis non, ça va, ça manque juste de sel. Vraiment. On m'appelle le Paul Bocuse de Bruxelles. En tout cas, depuis que Paul Bocuse est mort, on m'appelle comme ça, quoi. Tu vois, ça me déprime de pas être capable de faire mieux en cuisine, alors que plus je vieillis, plus la bouffe, ça prend de l'importance dans ma vie que quand je vais au resto avec un pote. 9 fois sur 10, pas vraiment pour le pote. Franchement, manger, ça devient ma seule source de plaisir, loin devant le sexe. Alors que le sexe, il y a quand même 3-4 pauses qui valent la peine. Et je parle sous l'autorité de Daniel, l'inventeur de la brouette lituanienne, qui, je le rappelle, consiste à faire l'amour avec une partie basse de son corps congelé. C'est vrai, ça va être complexe. Ouais, bien joué, Daniel. Très, très belle pause. Ça va être complexe, moi aussi. Je me suis surpris à me dire, putain, les restos sont fermés. Je me suis dit, les restos sont fermés, je vais pas tenir, quoi. Plus rapidement, je me suis dit, putain, les restos sont fermés, je vais pas tenir. Comment je suis devenu un de ces bourgeois? Putain, Ernesto, fils d'un écureuil d'une souche d'arbre, tu me dégoûtes. La semaine prochaine, je vous fais une chronique Tesla, Maserati, mon cœur balance. Non, franchement, il y a pas si longtemps, la fermeture des restos, ça m'en aurait touché une sans que l'autre soit dérangé dans sa sieste, quoi. Comme des dizaines de millions de gens dans ce pays, j'allais jamais au restaurant. Le seul truc qui m'aurait impacté, c'est que TF1 enlève Julie Lescaut de mon téléviseur. Tu vois, là, je serais sorti dans la rue. Mais les restos sont fermés, je vais pas tenir. En Belgique, une personne sur 5 vit dans la pauvreté. En France, c'est 4 personnes sur 5. J'ai pas la bonne stat, mais je me fie à comment vous êtes habillé. Je vois bien que le problème est profond. Ça sert à rien de minimiser. En attendant, hier, c'était le premier jour sans resto. Et le midi, j'ai mangé 3 tartines à la confiture. Et puis j'ai regardé le pot, elle était bonne jusqu'au 16 septembre.
Oh non.
Bien fait pour ma gueule. Ouais. Franchement, les restos sont fermés, je vais pas tenir. Je l'aurais bien mérité, cette staphylocoque. Allez, bonne émission, les amis.
Il y a toujours la même tête depuis 30 ans.
J'adore cette idée de téléphone portable avec la sonnerie de Dany Briand.
Je vous invite tous à aller aux soirées à Vilnius. Pleine de découvertes.
On est réunis pour parler de Miss avec Pascal Arbillot, un film qui sera en salle donc dès demain de Ruben Alves.
Demain 8h.
Je le répète, c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui pose aussi pas mal de questions sur le regard qu'on porte sur les autres, sur comment être soi. C'est la quête de toute une vie, de devenir soi, de s'approcher au plus près de ce qu'on aimerait être, de suivre ses rêves de gosse. C'était quoi vos rêves de gosse, vous, Pascal Arbillot ?
Alors là...
J'ai le chic de vous poser des questions pour vos collègues.
Alors, j'ai l'impression. Je sais pas si j'en avais.
Réfléchissez, on va passer Dany Briand, allez-y.
Vous rêviez de quoi? Ouais, vous rêviez.
Ah, j'aurais adoré, moi, avoir un cheval. Et... Enfin, c'est vraiment le truc adolescent.
Ouais, bah ouais.
D'avoir un cheval et de traverser.
Vétérinaire, tout ça.
D'aller en Patagonie. Enfin, j'avais pas vraiment de rêve.
Si, allez-y, par
là, j'invente, franchement, je me dis Patagonie, ça me traverse.
Pas mal.
Non, parce que non, je me suis jamais projetée dans quelque chose.
Dans un métier, dans un. Parce que souvent, les enfants parlent de ça.
Jamais. J'ai jamais eu de rêve précis.
Eh ben, on va quand même aller écouter en 93 ce que vous écoutiez.
Ok. Et ouais. Voilà.
Ah oui. Alors, je sais pas si c'était un rêve en 93 quand vous écoutiez Portichet Glory Box.
J'ai adoré.
C'est votre bande.
C'est l'époque où on a acheté les albums entiers, on connaissait l'ordre des chansons.
Ouais. Toute la transition entre le premier morceau et le deuxième, la suite.
Ouais, il y avait tout, c'était vraiment la tripote, les débuts, il y avait Massive Attack, ouais. Björk, tout ça. Enfin, j'ai adoré cette période et ça, je suis un peu nostalgique de cette période-là, où on pouvait tout faire sur cette musique, on pouvait être triste, être gay, danser, embrasser. Moi, je faisais des tours de périph' avec ma première voiture, juste pour écouter l'album en entier, mais c'était...
La crise de l'immobilier.
Ouais, voilà.
Et vous continuez à écouter beaucoup de musique?
Je voulais être pilote automobile quand j'étais petite.
Ah, bah voilà. Ça n'a rien à voir avec la Patagonie, parce que...
Mais rien à voir.
Enfin, elle essaie de nous perdre.
Non, je voulais faire un rallye en Patagonie.
Voilà.
Non, je crois que je me suis inscrite au Camel Trophy un jour, mais vraiment, c'était un rêve, pilote automobile.
Et bien, en 93, vous étiez diplômée de Sciences Po.
Ouais.
Et vous lâchez tout. Alors, du coup, diplômée de Sciences Po, c'était quoi l'ambition?
Ah, il n'y a pas d'ambition. Je pense que je suis issue d'une famille où et ma mère, et je ne la remercierai jamais assez, considérait que pour une femme, il fallait absolument.
Avoir un cursus.
Avoir un cursus pour être indépendante, parce qu'elle avait eu sa mère elle-même ne pas avoir le droit de signer de chèque. Et puis, elle s'en est sortie elle toute seule. Elle a vécu dans une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent et elle savait qu'il fallait. Ouais. Faire des études pour après avoir accès à, alors là pour le coup la liberté de l'emploi et surtout en tant que femme. Donc moi j'ai été élevée, c'est pas un choix hein. Après j'aurais pu, si j'avais été très bonne en maths, j'aurais peut-être fait l'X, mais ça alors là, impossible.
Ouais, c'était pas parti pour
Bon, Jérémy, X c'est polytechnique.
Ah d'accord.
Non, c'est à l'époque on l'appelait ça, c'est ça, c'est un vieux mot.
Mais qu'est-ce que vous vouliez faire après Sciences Po? Parce que
évidemment je ne savais pas, évidemment. Moi j'ai fait des études pour faire des études. Moi j'aurais pu faire des études toute ma vie, j'aurais pu apprendre toute ma vie, j'aurais adoré peut-être le regret.
pas ça d'être comédienne finalement aussi, de continuer à apprendre tout le temps.
Bien sûr, apprendre tout le temps, apprendre des langues, des langages différents, rencontrer tout le temps. Ah oui, oui, bien sûr, c'est s'adapter. Apprendre, exactement. Ouais, ouais. C'est un parcours d'apprentissage permanent, c'est vrai.
C'est ce qui vous rend joyeuse.
Ah bah ouais. Ah bah ouais, j'adore ça.
Et alors tout est parti d'une petite annonce. Et dans l'annonce, il y avait une phrase qui a été assez capitale dans votre choix.
L'essentiel est de ne pas avoir peur. Et j'étais dans mon bureau, je travaillais. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vais y aller. Et je suis tombée sur un garçon très jeune qui était en première année du conservatoire, qui pour se faire un peu d'argent avait loué
une salle.
Et j'étais la seule élève. Je suis arrivée, j'étais toute seule.
C'est un peu bizarre, ça fait pas peur.
Non, pas du tout. Il avait mis c'était très étonnant. Il m'a demandé de réciter quelque chose. Après, il m'a fait travailler, je crois, la semaine d'après, Hermione. Donc j'ai commencé à ramper en hurlant. Mmh. Et puis il m'a dit, tu devrais peut-être quand même. Je pense que tu devrais aller vraiment faire un cours sérieux. Donc il m'a dit à Florent à Pérémonie. Puis j'avais entendu parler de Pérémonie. C'était un peu, il y avait plus de cours, c'était moins cher.
Ouais.
Puis il n'y avait pas de concours d'entrée. Moi, j'étais très timide, donc j'y suis allée. Il m'a dit, écoutez, venez. Bon, je suis allée en costume. Puis j'ai petit à petit lâché mon travail et j'ai, grâce à.
Et vos parents ont dit quoi?
Mes parents ont eu très peur.
Ouais.
Ben ils étaient l'ambivalence. Ben comme en fait dans Miss,
c'est
l'ambivalence.
Ça.
C'est à la fois l'envie de faire confiance, de croire. Et la peur que l'enfant n'y arrive pas. Et même nous, en tant que parents, on a tous envie de tout ça. Et ils m'ont juste dit, trouve un travail à mi-temps de documentaliste.
Pour traumatiser tout le
monde. Et je remercie parce que j'ai vraiment été sponsorisée parce que je n'ai rien fait pendant 2 ans. C'était une boîte qui s'appelait Calandra Molino. Je les remercie parce qu'ils m'ont pris vraiment à mi-temps. On m'a demandé de classer des documents. Je n'ai vraiment rien fait pendant 2 ans. Et le mec me demandait juste comment ça se passait.
Ils sont ravis de la prendre en direct aujourd'hui.
Et j'étais toute seule. Et ils ont été formidables. J'ai gagné des sous comme ça et j'ai pu avoir mes premiers.
C'est une Pénélope Fillon, quoi.
on arrive en 2005, Pascal Arbillo.
Comment
mon cornet parce que j'entends rien. On est en 2005, Pascal Arbillo. Vous décrochez l'un des rôles principaux de la série Merci, les enfants vont bien.
Ouais.
Qui va durer 3 saisons.
Ouais, ouais. C'est une des premières séries en fait françaises assez libres dans l'écriture.
Vous jouiez une mère de 8 enfants.
Ouais, 8 enfants. J'étais même enceinte dans une des saisons. Et donc il s'en est servi, c'était formidable, j'aurais adoré faire ça tout le temps, que ça continue.
Ouais. Vous aimeriez être un personnage récurrent d'une série.
Évidemment, c'est extraordinaire. Après, il faut une liberté, il faut créer une troupe, les Américains sont très forts pour ça, ils réadaptent en fonction et de l'actualité, mais aussi des personnages et aussi des acteurs. J'adore aussi les spin-offs de séries, parce que tout d'un coup, on a un acteur secondaire et... Je suis accro à Saul, Better Call Saul, qui est le spin-off de Breaking Bad. Après, on peut aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe. Ça nous permet justement de...
On manque de ça encore en France.
Oh ben, je trouve. Ouais. Ah ouais, ouais, je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment une plateforme, OCS, qui développe. Alors, il n'y a pas encore assez de moyens, mais il y a plein de libertés de création. Il y a une série Irresponsable, il y avait Les Grands. Il y a plein de choses qui arrivent. Il faudrait plus de moyens, je trouve. Il faudrait vraiment donner de l'argent aux scénaristes. Beaucoup plus. Et puis qu'on travaille à plusieurs, qu'il y ait des poules, il n'y a pas de raison. Et les acteurs sont les premiers scénaristes parfois de leurs personnages. Et c'est ce qui se passe souvent
en faisant des propositions,
bien
en essayant d'orienter un petit peu l'écriture, de faire ce travail-là.
On connaît les personnages, puis on connaît leur complexité, on connaît leurs ambivalences, on connaît les. Enfin, c'est. Je trouve que oui, ça arrive, mais ça pourrait être beaucoup plus. Il y a une série, moi, que je trouve dément, ça s'appelle Mrs. Fletcher, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Hallucinant. Sur la femme de 50 ans qui découvre la sexualité au moment où son fils, lui, se prend dans la figure, là, la réalité sexuelle dans une université, c'est d'une liberté.
J'ai cru que c'était arabesque, moi, Mrs. Fletcher.
Ah non, non, c'était bien arabesque.
Moi, je suis une vieille dame.
Mais un jour, j'adorerais jouer. Alors là, finir en arabesque, moi, je veux bien, de manière générale.
Allez, alors attendez, d'accord. On est d'accord, la série.
Non, mais je savais en le disant. J'ai vu l'image en le disant.
Franchement, Jessica Fletcher, pilote de chasse, pilote de course et romancière enquêtrice. Moi, je pense qu'elle peut faire un bon personnage.
Bah ouais.
On passe en 2010.
Ah, bien sûr. Ouais. On parle de personnalité, là.
Ah bah là, non.
Heavy Cross. de Gossip.
Ah, j'adore.
Vous êtes une danseuse, Pascal Arbeau.
Ah, bah oui. Ah ouais. Alors là, c'est ce qui manque. En ce moment, on a du mal à. On peut pas danser, là, en ce moment. Bah, je danse chez moi, toute seule. Mais,
On peut aller jusqu'à 6 personnes.
Ça se passe
personnes.
Très bien.
On vous retrouve.
On fait un goûter. On pourrait relancer les slow. Je pense que c'est le moment de relancer les slow.
La distance, c'est compliqué. Et oui, Pascal, ça ne marche pas. Vous parliez de troupe, de groupe. Et bien, en 2010, on vous retrouve dans Les Petits Mouchoirs, dans la bande de Guillaume Canet.
Qu'est-ce qu'on a dansé sur ce tournage?
C'est vrai. Vous incarniez la femme de Benoît Magimel.
Ouais.
Vous vous êtes croisés, je crois, avec Guillaume il y a quelques années.
Ouais.
Et vous faites partie de la bande, vraiment. Oui.
Alors après, on ne se voit pas tout le temps. Et puis, je ne suis pas la bande originelle.
originelle.
Mais oui, je l'ai souvent au téléphone. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai adoré. J'ai adoré partir 2 mois et demi. Et là aussi, il a le sens de faire travailler les acteurs.
Ensemble.
Il aime les acteurs, il est lui-même acteur.
Vous proposiez des choses par rapport à votre personnage.
On proposait plein de choses, bien sûr. Et puis on vivait ensemble, c'était comme une mini-communauté. Et c'était très joyeux. Et on faisait la fête aussi le samedi, c'était un rapport. Mais il y avait M qui venait nous faire des concerts. Enfin, il y avait un truc
très festif. Ah oui, c'est sûr que dans ces circonstances, c'est pas
les mêmes
trucs
que chez
nous. On pourrait faire un film dans le film, presque.
Bah oui, mais c'était extraordinaire. Et c'est un grand souvenir. Et c'est une chance.
Et comment vous travaillez? Vous parlez de comment chaque acteur apporte au scénario. C'est qu'il y a une lecture commune, il y a des remarques qui sont faites. Quelle est véritablement la part de chacun?
Dans Les Petits Mouchoirs. Le premier, on est parti une semaine au mois de mai. On devait tourner en octobre, on est parti. Il a dit voilà, moi je voudrais parler d'un groupe d'amis qui perd dont l'un des leurs est à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? Et qu'est-ce qui se passe? Comment la vérité va
exploser?
Sortir,
ouais.
Et on a passé une semaine à discuter, à vivre, à déjeuner, dîner ensemble dans l'endroit où on allait tourner.
D'accord. Et vous êtes scruté, c'est quoi? Il prend des notes, il se dit tiens, on prend telle direction.
Oui, puis on parlait tous, et puis après il a reconstruit. Après Guillaume, il écrivait de son côté, et puis c'est extraordinaire de faire ça. Mais il y a beaucoup, je trouve que ça manque. Certains metteurs en scène font ça. Alors il n'y a rien à voir avec Guillaume, pas le même univers, mais moi je pense à Mike Lee avec qui j'adorerais travailler. Lui, il peut passer 3-4 mois à travailler avec ses acteurs. Il a les directions des personnages, la situation. Et il fait un laboratoire, quoi. Mais c'est deux méthodes différentes. Il y a aussi un cinéma où on vous impose un dialogue. Bakri Jaoui, c'est le contraire. Tout est ciselé, tout est travaillé. Et c'est extraordinaire aussi de se fondre là-dedans et dans la dentelle, mais d'être au service d'un auteur.
Bakri Jaoui, ils sont pas dans le partage.
En tout cas, dans ce film Miss, vous créez autour de vous une communauté. Miss sera en salle dès demain.
Oui, alors là, c'est vraiment une communauté. Je peux vous dire que on a été une équipe soudée et on a fait des.
Ça a l'air. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de tendresse.
Oui, et je vous assure, on a une troupe de techniciens, acteurs confondus.
Une comédie musicale à venir.
Ah bah possible. Bah on en a fait une. Alors là, on a même fait un défilé de Mister. Pendant le film, tous les hommes se sont foutus en peignoir en disant il n'y a pas de raison. Et donc, j'ai des photos.
Je pense que d'ici une heure, on va avoir des détails sur la fin de soirée.
Ouais. Elle aussi est à la tête d'une bande, d'un groupe, c'est Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie Tellier, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous avez été élue Miss France en 2002. Vous êtes directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation. Que vous avez publié Miss France aussi, un livre qui retrace les 100 dernières années aux éditions Hors Collection, qui sort le 29 octobre, donc dans très très peu de temps. Soyez la bienvenue. Quel regard, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est marrant. Il y a un regard quand même, il y a une critique dans une certaine façon des Miss France. Le personnage d'Isabelle Nanty ne cache pas ses mots. Je vous vois figurer dans le film, je me dis qu'il faut faire preuve d'une grande ouverture d'esprit pour participer aussi à ce film et accepter d'entendre ce discours un peu négatif sur les Miss.
Alors, ce discours un peu négatif sur les Miss, on l'entend souvent.
Oui. Vous l'entendez souvent que ça?
Je voulais remercier Pascal, parce que elle vient de parler du concours Miss France avec beaucoup de... déjà beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intelligence. Je pense qu'elle s'est rendue compte que dans cet univers de Miss, il est constitué de jeunes femmes qui ont une personnalité, qui ont des choses à dire, qui sont engagés.
Vous souffrez de l'image qui est véhiculée autour des Miss ?
Non, ça fait partie. Vous savez, quand vous faites une émission qui fait 8 millions de téléspectateurs, automatiquement, elle est critiquée. Ouais, est dans une société du pour ou du contre. Mm-hmm. Je crois que c'est surtout ça, surtout avec les réseaux sociaux, surtout. Comme le dit Pascal, en fait, pour juger Miss France réellement, faut connaître.
Ouais.
Et nous, c'est vrai qu'on est aussi une sacrée bande avec nos délégations régionales, avec nos candidates, nos anciennes Miss France. On va fêter les 100 ans des concours de beauté cette année. Et on dit souvent quand on rentre dans l'aventure Miss France, on y reste parce qu'on se rend compte que c'est un milieu de passionnés, c'est une forme de tremplin pour les jeunes femmes, ça leur donne la parole. Alors oui, effectivement, il est critiqué le concours, mais comme toutes les institutions, on va dire peut-être aujourd'hui, Miss France, c'est une institution, c'est 100 ans, c'est une institution de divertissement.
Oui.
Faut pas oublier
c'est aussi un spectacle.
Qu'à la base, c'est un spectacle, c'est un concours de beauté. J'espère de personnalité, d'élégance, d'intelligence. Aujourd'hui, ce concours, il a évolué comme les femmes ont évolué. Mais
justement, on le voit dans le film, il y a une volonté d'aller vers quelque chose de plus contemporain, ne serait-ce que pour le voyage des Miss. Est-ce que c'est envisageable, Sylvie Tellier, de ne pas partir au soleil
et d'aller
débarrasser les plages du Nord?
Vous vous rendez compte de l'économie que vous pourriez faire?
C'était peut-être un peu précurseur, parce qu'avec cette situation sanitaire dans laquelle on se trouve cette année, Ruben, il a été visionnaire. Nous n'irons pas au soleil, voilà. Donc on va faire une autre forme de voyage. Mais
voyage engagé, un peu militant, comme là il y avait cette volonté. Alors c'est un peu cynique,
c'est un peu caricatural, parce que évidemment c'est le but du film, mais là-dessus Ruben a fait preuve de alors déjà artistiquement, il faut dire que ce film est extrêmement beau.
C'est très beau, oui.
Tout ce qui a été reproduit, réalisé, on est dans une fiction, on raconte une fiction, parce que l'histoire d'Alex, ça pourrait pas se passer dans le concours Miss France, et d'ailleurs le scénario a été un petit peu adapté par rapport à ce qu'est la préparation de Miss France aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut saluer le travail d'effectivement de Ruben, parce que moi, quand on m'a parlé de ce projet, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, voilà, si on parle d'une fiction de Miss France, il faut quand même reproduire, il faut pas se moquer du concours, il faut respecter les codes, les valeurs.
Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur, le fait de reproduire l'ambiance Miss France ou d'avoir un personnage principal, un héros homme qui veut devenir Miss France?
Ça, j'ai trouvé ça fantastique, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut respecter les autres. Je pense qu'il faut respecter la différence, il faut oser, il faut rêver. En tout cas, c'est ce qui nourrit le concours Miss France.
Ouais, c'est du rêve.
Aujourd'hui, il me semble que ce qui fait que autant de gens regardent le concours Miss France à la télé, c'est qu'on fait rêver les gens.
Si ça fait 100 ans, est-ce que dans l'histoire de Miss France, c'est déjà arrivé qu'un homme se présente historiquement?
Peut-être.
C'est arrivé? Pas.
Non, on ne le sait pas.
C'est pas dans vos archives.
Alors, vous savez, dans le règlement, il faut, avoir un état civil, il faut être femme. Donc, effectivement, on parle d'androgynie dans ce film. On parle d'un petit garçon qui rêve d'être Miss France. Il y a des concours de Mister. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça existe, les concours de Mister France.
Sauf que ce petit garçon veut être Miss France.
Ouais. Il veut être Mister France.
Et il veut pas être Mister France, de taille.
Mais Mister France, malheureusement, il n'y a pas autant la même résonance pour Mister France aujourd'hui que pour Miss France. Je trouve ça dommage.
Est-ce que ça serait envisageable, une Miss transgenre?
Ça, c'est compliqué. Comme je pense que j'ai largement répondu à la question. Aujourd'hui, ce sont les Français qui élisent Miss France.
Oui. Ça vote beaucoup. Il y a beaucoup de votes pour élire.
Il y a beaucoup de votes. Est-ce que les Français sont prêts à avoir une Miss transgenre? Je ne sais pas. Ouais. J'ignore.
Mais qui doit précéder le c'est toujours pareil. C'est l'histoire. C'est qui doit lancer le mouvement avant ou pas?
Oui, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On a entendu beaucoup de choses l'année dernière quand on a fait le tournage. On a parlé justement transgenre. C'est pas du tout le sujet du film aujourd'hui.
C'est vrai. Posais la question comme ça.
Le sujet, c'est l'androgynie. Il faut faire attention.
C'est la part du féminin qu'il peut avoir chez un homme.
Voilà, exactement. Donc il ne faut pas décaler
le débat.
Mais
ça n'enlèvera pas le débat là-dessus, sur la transsexualité.
C'est un débat qui est important.
Aujourd'hui, Miss France, il y a des règles. Il faut être femme sur l'état civil.
Aujourd'hui, dans le concours Miss France, effectivement, il faut être femme dans l'état civil.
Femme dans l'état civil, ce qui ne veut pas...
Pas née femme.
Voilà, donc la porte reste ouverte.
Oui, la porte est ouverte, de fait.
Vous savez, on n'est pas là pour rentrer dans la vie des gens. Ouais. Je crois que c'est ce qui est important, nous... participer à Miss France, c'est une démarche volontaire aujourd'hui. Ce sont des jeunes femmes qui ont entre 18 et 25 ans, qui s'inscrivent au règlement. Moi, à partir du moment où elles s'inscrivent et elles nous fournissent une pièce d'identité comme quoi elles sont femmes, pourquoi remettre en cause ce qu'elles sont, les choix qu'elles ont pu faire? Et voilà, je crois qu'il faut...
Et puis on voit aussi que la préparation de l'élection, Sylvie Tellier, pardon de vous interrompre, c'est aussi travailler sur soi. Il y a, alors, on a toute une séquence du film de préparation du personnage d'Alexandre Véter avec son ami boxeur pour être au niveau. Parce que c'est une élection, il faut être un gagnant ou une gagnante dans sa tête. Faut être, vous avez vécu l'élection en tant que candidate, vous avez été élue Miss France. Comment est-ce qu'on se prépare à participer à une élection de Miss France? C'est pas simplement un concours de beauté où on est là, on sourit et on est lascive.
Alors déjà, on se prépare pas aujourd'hui comme il y a 20 ans.
Ouais, c'est vrai.
Parce que les Français attendent d'autres choses.
Alors comment on se prépare?
Comment on se prépare aujourd'hui? Déjà, on se prépare moralement.
Ouais.
Parce que s'exposer à la notoriété, s'exposer dans un concours, c'est pas évident.
Ouais.
Donc,
encore
on se prépare,
plus aujourd'hui.
On s'entoure de ses amis, de sa famille. On se prépare à cette compétition. Et puis après, évidemment, on est dans un concours de beauté. Donc, il y a une préparation sportive. On apprend. Et c'est pour ça que la préparation de Miss France dure un mois pour nous. Parce qu'on considère que les jeunes femmes arrivent dans ce concours, elles n'ont pas toutes le même niveau de préparation. Donc, nous, organisation, on est là pour leur donner les clés, en tout cas, pour...
Alors, ça consiste en quoi, cette préparation d'un mois? On voit dans le film qu'on
apprend... Je vous emmène avec moi.
À se tenir à table. Ouais, mais j'adorerais assister
Vous
ça.
Avez des cours d'éloquence, vous avez des cours de
danse.
De défilé. Vous
danse
avez...
aussi.
Pardon?
Danse. Pour les chorégraphies.
Effectivement, vous avez des cours de danse, vous avez, on vous apprend à vous maquiller, à vous coiffer, à vous mettre en valeur. Je crois que ce terme vous met en valeur et vous, d'une façon générale, on vous apprend à prendre la parole également.
Ouais.
On vous apprend à accepter la critique des autres, voilà, parce que ça c'est important. Et dans une société où les réseaux sociaux critiquent beaucoup. Donc,
ouais. Et puis dès qu'il y a une faille, ils plongent dans quoi les réseaux sociaux
Oui, on leur apprend surtout à prendre de la distance, à prendre de la hauteur avec tout ça, à se protéger elles-mêmes, de se dire oui, les réseaux sociaux sont là pour effectivement véhiculer beaucoup de choses. Et on le voit tellement dans l'actualité en ce moment depuis ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé vendredi. Il faut, je crois que là-dessus, il faut appeler effectivement les responsables de ces réseaux sociaux à modérer et à faire attention parce qu'ils ont un vrai rôle aujourd'hui de médias. Mais la préparation de Miss France, oui, ça dure longtemps parce que c'est une sacrée épreuve.
Oui, c'est un enjeu important parce que quand on gagne Miss France, eh bien, on peut avoir sa destinée complètement bouleversée. Vous en êtes aussi la preuve vivante, Sylvie Tellier. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre vous deux, entre le personnage d'Amanda dans le film et vous, Sylvie?
Moi, j'ai adoré le personnage d'Amanda, j'ai adoré ses punchlines. En fait, je suis allée voir, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh, j'aimerais tellement sortir ça à tel moment. J'ai trouvé, on parle beaucoup, effectivement, le personnage d'Alex, il est tout en émotion. Il y a un travail énorme. Mais vraiment, le personnage de Pascal, il y a cette espèce de rigueur, en fait, qu'on voit dans ce rôle de directrice de l'organisation Miss France. Évidemment, ça me touche parce que c'est un peu le mien. Et j'ai trouvé le rôle de Pascal tellement juste, en fait, tellement touchant. Elle est là, elle écoute Isabelle Nanty. Elle essaye effectivement d'expliquer sa position, mais toujours avec beaucoup d'écoute, de bienveillance. Même elle est gardée fille. Enfin voilà, moi
ça vous a donné des idées pour peut-être la suite de Miss France que vous auriez piqué à Pascal Arbillon.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr, ça m'a donné des idées, mais surtout j'ai envie de dire aux gens, mais allez voir ce film. On apprend tellement, on sort de ce moment, on est perturbé, on a pleuré, on a ri, on est touché, et puis on se dit, waouh, on est dans une société aujourd'hui où soyons ouverts, soyons tolérants, laissons les gens rêver, laissons-les oser.
Alors justement, Sylvie Tellier, comment on fait en ce moment avec le Covid pour les élections de Miss France, pour les sélections? Est-ce que tout est maintenu? Est-ce que les jeunes femmes qui ont envie de s'inscrire, de participer, peuvent continuer?
On s'adapte. Ouais. Les élections régionales ont lieu, parfois à huis clos.
Est-ce que vous appelez les Miss par leur région? Parce que dans le film, on a beaucoup ri. Ça a été notre sujet ce matin entre nous dans le bureau. C'est-à-dire qu'on s'est appelé par nos régions. Donc, Daniel, c'est Midi-Pyrénées.
Voilà.
Est-ce que vous appelez les Miss Île-de-France? Dans le film, on le voit comme ça. PACA, tais-toi, Corse, viens ici. Île-de-France, ça suffit?
Moi, je me fais une règle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une jeune femme est élue, j'apprends son nom et son prénom, son nom de famille, parce que c'est important. Après, dans la compétition...
Faut le retenir pendant un an, après.
Non, mais ce qui est c'est que les filles s'appellent comme ça. Moi, j'ai été Miss il y a 20 ans. Quand j'appelle Caroline Talbot, qui était la Miss Poitou de mon année, je dis Poitou. Salut Poitou. On s'appelle encore Provence, reste Provence. Et parce qu'on devient, quand vous participez à Miss France, tout d'un coup, vous vous prenez un espèce de, je sais pas, une bouffée de fierté de vos régions. Déjà, vous découvrez votre région, vous êtes, vous êtes fière de porter, en fait, moi j'étais Lyon, j'étais fière de porter toute l'identité régionale de ma région.
Merci beaucoup Sylvie Tellier. On va accueillir une autre Miss très très fière de sa région, c'est Miss Bretagne, c'est Tanguy Pastureau.
Salut Bretagne.
Mais oui, alors vous m'appelez c'est même sur ouais,
Parce que tu le mérites, oui, t'es bah, Miss Bretagne. D'ailleurs, il dit qu'il ne gagne jamais Miss Bretagne, il faudrait faire quelque chose pour lui, oui, s'il vous plaît.
Enfin,
Miss
Bretagne, elle gagne souvent. Je ne participe pas non plus à des concours de beauté, parce que sinon évidemment je serais numéro 1. Alors je vais vous parler des animaux. Vous savez, c'est super d'être un animal, on peut faire pipi contre les arbres, ça revient à être un homme en fait. Et bien figurez-vous que les animaux font tout pour éviter les conflits. Voilà, c'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure.
Merci Tanguy Pastureau, on se retrouve juste après.
Mais oui.
De la bande originale, soyez les bienvenus avec Morgane Gagnon, avec Jérémy Crêteville, Guillermo Guise, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, et notre invité, c'est Pascal Arbillon.
C'est le grand pilote de rallye.
Pascal, oui, le grand pilote de rallye. Et à l'affiche dès demain d'un très beau film Miss de Ruben Alves avec Isabelle Nanty, avec Alexandre Véter, que l'on découvre et qu'on a hâte de revoir dans un prochain film qui est assez exceptionnel. Qui signe une performance vraiment.
J'ai oublié de citer Quentin Faure qui joue le meilleur boxeur.
Le boxeur. Stéphie Selma également qui incarne cette Miss un peu prête à tout. Et puis le personnage évolue. Thibaut de Montalembert en Lola, extraordinaire. Je crois le réalisateur a dit qu'il avait vu dans une scène de 10% fumant une cigarette allongée sur un lit et qu'il y a vu une forme de féminité et c'est pour ça qu'il lui a confié ce rôle.
Mais il va loin, lui, quand
on
tu
a
regardes.
Beaucoup aimé. Oui, fais attention comment tu fumes, mon cher Daniel. Tu peux te retrouver vite avec des talons hauts. Miss, c'est dès demain au cinéma. C'est un très, très beau film. On vous invite à y aller. Et puis, on a parlé de cette dimension militante. Pascal Arbillon, aller au cinéma, c'est aussi permettre à tous de passer un moment sympathique ensemble, de rire, de pleurer, de se questionner sur l'histoire de ce jeune homme qui se sent plus fort en femme, qui rêve de devenir Miss France. On va suivre l'évolution du personnage, on va suivre aussi les embûches sur son parcours, parce que rien n'est simple, surtout quand on est androgyne et qu'on rêve d'un ailleurs et que c'est pas habituel. Donc aller au cinéma, c'est aussi discuter de ça ensemble, c'est aussi se faire du bien et vous voir à nouveau sur grand écran, Pascal Arbillon.
Ouais, merci beaucoup en tout cas. Et aller au cinéma d'abord parce que c'est un acte pas seulement de résistance mais d'existence, de partage, des choses qui nous unissent et qu'on peut y aller sans danger et le danger ce serait de s'isoler. Il faut se protéger évidemment
et pour le bonheur
et d'aller rêver,
et d'aller rêver, soutenir, se faire du bien,
le rêve d'un être unique et d'aider le cinéma, d'aider les salles, d'aider tous les métiers qui est autour, d'aider tous les intermittents, déjà soutenus par le gouvernement, mais il faut continuer
à le faire.
Et puis, de rendre hommage à ce sujet qui est magnifique, et à Ruben Alves, qui est un être extraordinaire.
On sent le coup de foudre avec le réalisateur Pascal Arbillon. Et puis, j'ai pas parlé d'un autre personnage qui m'a fait pas mal d'effet, c'est qu'il y a une marraine dans le milieu.
Ah mais la marraine, j'allais vous en parler.
Et la marraine,
Amanda Lear.
Amanda Lear, au bois de Boubou, dans une roulotte, qui reçoit et qui donne des conseils, puisque quand Alexandre...
La marraine des travailleuses.
Absolument, la marraine des travailleuses, la grande marraine, qui est une sorte de néon love au-dessus de sa tête, et qui prodigue comme ça des conseils pour accéder à la féminité, parce que elle lui dit bien, tu ne seras jamais une femme, mais on peut travailler ta féminité, d'où l'art du tucking, je crois que c'est ce qui est évoqué.
Rentrer à l'intérieur.
De camoufler ses parties génitales quand on est un homme pour pouvoir défiler en maillot de bain, c'est important pour Miss France. Mais voir Amanda Lear dans ce film,
c'est extraordinaire. Quelle liberté, quelle
autodérision,
quel panache, quelle joie.
Courage.
De jouer ce personnage.
Mais tout, on a eu du courage, mais ça a été facile, franchement.
Ça a été un bonheur, apparemment.
Facile, tellement facile.
Il y a un autre bonheur autour de cette table qui est là tous les jours. C'est Tanguy Pastureau.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'ostéoporose, maladie diffuse du squelette qui fragilise les os. Et là, vous vous dites, ah la vache, ou le soja en steak pour les véganes. Ce Pastureau, quel génie, il va réussir à nous pondre une chronique de 5 minutes sur les os qui perdent en densité. Eh bien non, avant je l'aurais fait, parce que j'en avais rien à foutre. Mais maintenant, je sais que je dois faire rire l'auditeur afin qu'il vienne me voir en salle et que je devienne immensément riche. Parce que là, même si Bruno Le Maire me fait un contrôle fiscal, j'ai quoi 9 facturettes de la brioche dorée à lui montrer. C'est la loose. J'ai donc 3 choix pour cartonner. Soit faire des blagues sur sur Guillaume Auguise, c'est-à-dire parler de drogue, d'alcool et de MST. Hein, c'est le seul humoriste à avoir la même vie que l'ensemble des membres du groupe Motley Crue en 84. Soit faire des blagues sur Daniel Morin, c'est-à-dire parler de sécrétion, de poils et d'absence d'empathie. Soit faire des blagues sur les animaux, ce qui revient au niveau des thèmes abordés, à faire des blagues sur Daniel Morin. Alors vous le savez, j'adore les animaux, je les préfère aux humains. Hein, devant les dents de la mer, j'ai pleuré. Pas quand le baigneur se fait arracher la jambe, hein, parce que je vois l'avantage que ça représente. Moins de jambes, moins de crème solaire. À la fin de l'été, on a économisé un tube. Non, quand le requin meurt, j'ai pleuré. J'aime tellement les animaux que je serais prêt à laisser ma place ici à mon chien. Il cartonnerait, en vidéo notamment, parce qu'il arrive à se lécher l'anus. Moi, non. J'ai un pincement discal qui m'empêche de le faire. Non. La direction m'a proposé des séances d'ostéopathie afin que je règle le sexe. Je trouve enfin mon style. Mais j'ai refusé par manque de temps. Hein, j'ai déjà 17 heures de psy par semaine. Un monsieur à qui je raconte que je suis devenu centriste à l'âge de 10 ans en tombant sur l'heure de vérité en 82 avec comme invité Jean Arthuis. Aujourd'hui, c'est donc la journée de l'ostéoporose, mais dimanche, c'était la journée internationale pour la résolution des conflits. Journée pourrie pour nous, Français, parce que la vente d'armes, c'est 9 milliards d'euros qui tombent dans notre cochon. Si le monde entier demain se fait des tresses dans les poils pubiens avec amour, en écoutant un best-of de John Lennon, notre PIB se tape l'équivalent de 70 semaines de Weight Watchers. Bref, la guerre, c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que ça fait des morts qui, pendant ce temps-là, n'écoutent pas Europe 1. C'est mauvais pour la consommation. D'où l'importance de régler nos conflits. Et je suis tombé sur un article d'Alain Bougrain-Dubourg, le pépère à sa mèche, pour RTL. Et là, que dit-il ? Eh bien, que les animaux, eux, passent leur vie à éviter la confrontation. S'ils se battent, c'est vraiment qu'ils ont épuisé tous les recours. C'est la différence qu'ils ont avec Vladimir Poutine, à lueur d'intelligence dans le regard comparable. Alors, exemple, ils utilisent le camouflage. Alors, il y a le poisson-pierre, notamment. Hein, un poisson qui a l'allure d'une pierre. J'ai un ami en Bretagne qui a construit sa maison. À un moment, une mouche est passée, les quatre murs se sont mis à lui courir après. Ce con a réalisé qu'il avait tout construit en poisson-pierre. Le phasme également se camoufle. Le phasme, c'est un insecte ayant l'allure d'une brindille. Et moi-même, je me camoufle ici à France Inter. Quand je croise un collègue, je crie « Vive Benoît Hamon !» ou « J'ai couché avec Taubira !» Ce qui est faux, bien sûr, parce que je n'aime pas Benoît Hamon. Et là, camouflage, je me fonds dans la masse des gens de gauche. Ensuite, je ressors le Figaro que j'avais scotché sur mon torse en espérant ne pas tomber sur Guillaume Meurice, armé d'un café trop chaud. Autre technique animale pour se défendre d'un prédateur, la protection. Alain Bougrain-Dubourg rappelle que la sèche, en cas d'attaque, projette de l'encre, hein, comme Marc Lévy, sauf que lui fait ça sur une feuille, alors que personne ne l'a attaqué. Plus radical, il y a l'automutilation. Ainsi, le lézard peut couper sa queue pour échapper à un ennemi. C'est pour ça qu'il ne porte pas de slip. Sinon, il serait obligé d'en changer de taille sans cesse. Le ver de terre aussi peut s'automutiler. Puis, il se régénère. Ses membres repoussent. Une super vie. Sinon, on était pareil. On prendrait tous les risques. À Fort Boyard, on se battrait contre les tigres à main nue. À l'écran, ça donnerait autre chose que les bodins. Et enfin, les primates, ces êtres qui sont comme nous, mais en plus gracieux, car eux ne s'habillent jamais en doudoune sans manches, font les menteurs. Alors, des spécialistes des singes en Afrique du Sud ont observé un babouin poursuivi par un dominant, plus puissant, hein, c'est comme si chez nous, Martine Aubry poursuivait Lily Rose Depp. Eh bien, il s'est dressé sur ses pattes arrière en scrutant l'horizon comme s'il apercevait un prédateur. Et là, le dominant a fait pareil et a oublié qu'il devait casser la figure du premier. Parce que c'est toujours pareil, on est fâché jusqu'à ce qu'on ait un ennemi commun. Si les aliens déboulent pour nous péter la tête, François Cluzet et Jean-Marie Bigard, arrêtons de se critiquer, tout ça est tellement vain. Ils feront l'amour. Ce qui est compliqué parce que la moitié des blagues de Bigard concernent les testicules. Donc il a l'impression, quand il fait l'amour, d'être en pleine séance d'écriture. Comme les bonobos, tiens, on sait que pour apaiser les tensions, ils s'envoient en l'air, hein, sur un tapis de feuilles, donc tel des zadistes. Mais Bougrain-Dubourg révèle qu'ils ont une vingtaine de gestes et de cris différents pour indiquer qu'ils souhaitent copuler. Quand nous, on a juste une phrase qui est chérie entre l'épisode 4 de la saison 8 d'Engrenage et le 5, si tu as une minute, je suis là. Bref, les animaux, en réalité, vous avez vu, se battent bien moins que nous, c'est nous qui sommes les sauvages. Donc je propose à titre symbolique qu'on mette Brigitte Macron dans l'enclos de son panda du zoo de Beauval à l'isolement Covid-19, tandis que le panda, habillé en Chanel, lui lancera des petits bouts de bambou.
Bravo, Thierry
Pascal. Leïla Kaddou, la bande originale.
Et on continue de parler de Miss, ce très beau film de Ruben Alves qui sera en salle à partir de demain. Et dans la bande originale de ce film, on retrouve Clara Luciani. Drôle d'époque, c'est un très beau titre qui colle parfaitement à l'histoire.
Ouais. Sublime.
Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. d'une femme. Où sont passés tes seins, ta combrure de félin, tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules pour être une femme de mon époque ou vivre vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en restant amoureuse. Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas être cette femme, cette femme, être cette femme. Moi, j'ai pas le temps, pas les épaules.
Clara Luciani, qui fait partie de la bande originale de ce film Miss de Ruben Alves. Ouais, le texte est fort.
Ah, le texte est fort et c'est à l'image du film. Il y a tout. Il y a des personnages bigarrés, fous. Il y a ses chansons. Il y a toutes les féminités possibles.
Et il y a cette ambiance de concours de Miss France. On pénètre dans les coulisses.
C'est d'une beauté d'ailleurs, parce qu'à la fin, il y a vraiment le concours. C'est filmé, c'est extraordinaire.
Avec les chorégraphies qui prennent beaucoup de temps à préparer.
C'est une beauté.
Et puis on parle de musique. Il faut forcément qu'on fasse un clin d'œil à notre camarade Ulysses. Raise me to voilà, le défilé final a lieu sur ce titre
beauté.
Écrit, composé par Ulysses, You See Me. Il y a un autre titre aussi d'Ulysses, comme Back to Me, qui vient rythmer un peu l'élection de Miss France. C'est en salle à partir de demain.
8h
pour voir Pascal Arbillot.
Petit déjeuner.
Voilà, un petit déjeuner avec Pascal Arbillot, ça s'est bien vendu. Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture? Quelques questions. Si je vous dis le spectacle d'après.
Ah oui.
Ça vous parle?
Bien sûr.
Ça vous parle de qui? On est dans l'humour.
De Florence Foresti?
Absolument, Tanguy.
Et qui du coup l'annule.
Absolument, c'est son spectacle.
C'est encore reporté, donc au bout d'un moment, elle ne va pas parler du confinement dans 2 ans et demi. Donc,
c'est ça, elle a pêché par optimisme, en tout cas dit sa manageuse.
C'est son problème, je crois. Ça.
Elle devait se produire au Théâtre Mogador à Paris du 9 au 19 décembre. Il faudra donc attendre un peu pour le retour sur scène de Florence Foresti. Le Covid influence même l'écriture. Comment ça se passe de votre côté, Pascal Arbillot, côté tournage?
Ben en ce moment, je tourne avec Simon Apkarian, qui a commencé aussi en même temps à jouer une pièce qu'il avait déjà jouée à la Cartoucherie au Théâtre de Paris.
Du coup,
ils adaptent les horaires.
Vous voyagez souvent.
Comment, voilà. Comment ?
Non, parce que vous arrivez de voyager ensemble.
Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique. Hier, oui. Guillaume Guise a un
Qu'est-ce
peu espionné.
Anecdote.
Simon Abkarian et Pascal Arbillot dans le Thalys.
Absolument.
J'ai fait tout le temps.
J'ai entendu tout. J'ai des énormes dossiers. En effet, vous lui disiez que vous adoriez travailler avec lui.
Ouais. Ouais. Et j'adore son rapport aux femmes aussi, et sa façon d'écrire pour les femmes. Et le spectacle a commencé il y a 3 jours et il tient. Ils ont ravancé parce que
le dernier jour du jeune.
Et c'est un spectacle extraordinaire qu'il faut aller voir aussi. Il faut aller. Mais comme il faut aller voir en salle Adieu les cons aussi, il faut aller voir tout ce qui sort en ce moment. C'est indispensable, indispensable. Il faut soutenir, mais c'est tellement facile. C'est une chose facile de prendre un billet.
Ouais. Et faire en sorte d'être rentré à la maison pour 21h.
Ouais, voilà. c'est ça la contrainte. Oui, la contrainte, c'est ça. La vraie contrainte, voilà.
On aurait si vous allez à la séance de 8h demain, vous serez chez vous.
On attend toujours l'allègement. On attend toujours peut-être un. C'est pas un passe-droit, c'est juste.
Vous espérez encore quoi, qu'on décale les horaires
ou qu'on ait le droit, qu'il y ait une tolérance pour rentrer 20 minutes plus tard que 9h.
Et... Vous en parliez dans le train?
Non, on parlait.
Question suivante, quelle est la particularité de la pièce L'embarras du choix qui se joue en ce moment à Paris? Ça se joue à la Gaîté Montparnasse. On fait en même temps de la pub pour les pièces de théâtre pour inciter les gens à y aller.
On paye pas ce qu'on veut.
On paye pas ce qu'on veut.
On peut choisir quand on veut. On peut partir quand on veut.
Non, mais c'est lié en effet à la volonté du public.
On choisit le comédien.
Non, pas le comédien.
On choisit la durée de la
fin.
Pièce.
On choisit. Il y a une fin alternative.
On vote. On permet, en tout cas, c'est Morgane qui va avoir le point.
Tu rigoles.
Le héros va s'en remettre à la décision du public, en particulier d'un membre du public. À un moment, le héros va s'arrêter, va poser une question en disant voilà, est-ce qu'on va plutôt. Je ne sais pas, on donne un exemple, le week-end à Honfleur avec Léonore ou la soirée avec Alice. Le public se positionne. Bon voilà, Honfleur pour okay. Morgane Cadignan.
Alice.
Et le personnage lui répond, c'est pas exactement ce que j'aurais choisi, mais soit, je vous suis. Et la pièce va donc évoluer en fonction de la décision du public et une forme d'interactivité.
Ah mais moi j'avais fait ça il y a très longtemps avec Robert Hossein.
Robert Hossein, ouais.
Un truc fou.
Il fallait voter.
La nuit du crime.
Ouais.
Et j'étais une fois sur toi, une fois sur trois, la criminelle.
Sur toi.
La méchante. Sur toi.
Vous êtes cliente de ce genre de dispositif?
Non, c'est particulier. Hein. Je suis pas cliente. Je trouve c'est incroyable l'interaction.
C'est un peu le livre dont vous êtes le héros qu'on avait quand on était gosse. Je sais pas si vous avez connu ça, où on choisissait la suite de l'aventure à la fin du paragraphe, aller à les pages 12.
Il y a des fictions d'ailleurs maintenant, on peut choisir. Ouais. Il y a un algorithme qui vous permet de.
Black Mirror l'a fait.
Oui. Non, enfin, en même temps, ça crée. Alors moi, j'ai des souvenirs incroyables de choix. Un jour, je m'étais brûlé la figure pour X raisons, et donc j'avais une tête un peu plus bizarre, et j'étais pendant 15 jours systématiquement la criminelle.
Ah ouais.
Donc c'était assez intéressant à observer.
Une sorte de délit de faciès.
Un délit de faciès
oui, c'est
pendant 15
ça.
Jours. Donc je l'ai vécu. Après, je trouve que c'est. Voilà. C'est. J'ai pas de jugement là-dessus.
Le retour de Sylvie Tellier.
Le retour de Sylvie Tellier, Miss France, le générique de Miss France. Qui est au cœur de ce film Miss de Ruben Alves, l'histoire d'Alex, qui un héros androgyne qui voyage, qui navigue entre plusieurs genres, qui n'a pas envie de choisir.
Il n'a pas envie de choisir.
Qui est heureux comme ça.
Qui est heureux comme ça.
Et c'est une belle fable de la différence. Et quand on parle de cette différence, de ce vivre ensemble, il y a vraiment un lieu qui résume ça. C'est la maison où vit Isabelle Nanty, son personnage, entourée de quelques comparses.
Ah ben de travailleurs non déclarés. Sans papier,
de trafiquants.
Lola, de trafiquants. Ah oui, c'est vraiment un peu tous les exclus de la société.
C'est ça.
C'est une bande, comme ça, une bande qui s'est reformée.
Ce qui est intéressant, c'est que géographiquement, c'est pas du tout situé. On sait pas où est cette maison.
Non, c'est vraiment un conte. En fait, ce film est
c'est
un conte. C'est une fable.
Au départ, Isabelle Nanty, c'est un peu on a l'impression que elle fait partie des Thénardier.
Ah oui, c'est une marâtre. Au début, elle demande le loyer. Ah oui.
Elle doit vivre aussi.
Il y a toutes les figures, oui, mais il y a tous les clichés qui sont complètement tordus. Et c'est ça qui est magnifique. Ça parle de la famille d'adoption.
Oui.
Ça parle d'une société qu'on voit jamais, en fait.
Oui. À qui on ne donne pas la parole.
Apparemment minoritaire, et c'est faux, en fait. On est tous, de fait, différents. On est tous uniques. Ça parle beaucoup du droit d'être unique, mais sans prosélytisme, sans vouloir absolument affirmer. Alors c'est un petit peu anti-communautariste, mais on appartient tous à une communauté, la première étant la famille, mais c'est de fait un film pas du tout communautariste.
Et on vous retrouve dans ce personnage d'Amanda, qui est un personnage
que j'ai adoré jouer.
A priori dur, mais qui va se révéler plus tendre que prévu.
Moi c'est un personnage qui incarne la droiture.
Ouais.
L'honnêteté. Une forme de droiture, ouais. Une honnêteté réelle.
Un peu cinglante, quand même.
Et qui est très dur avec... Il y a deux, trois personnages masculins qui s'en prennent plein la figure aussi.
Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement? On vous a vu il n'y a pas longtemps dans Les Apparences avec Karine Viard, un film qu'on a beaucoup aimé.
J'ai adoré aussi tourner avec Karine et Marc Fitoussi. Donc j'adore le cinéma. J'ai adoré ce personnage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon cousin... Et que j'ai pas encore eu la chance de
voir. Mon cousin Diane Kounen, avec Vincent Lindon et François Damiens.
Voilà, là je tourne un film, un film d'Anne Fontaine, le prochain.
Oui.
Qui s'appelle Président, avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois et Dora Tillier.
Quel sera votre personnage?
Je suis la femme de Grégory Gadebois.
Voilà. Donc de François Hollande.
Oui,
l'équivalent de François Hollande.
Voilà, exactement.
Donc vous êtes plutôt qui?
Ah non, il n'y a pas de... C'est encore une fois une fiction. Ah non, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de référent.
On va dire, c'est une dystopie.
Ouais.
Et puis j'ai tourné cet été un film avec Agnès Hurstel, que j'adore, qui est chez vous, chroniqueuse. Ouais. Jacques Gamblin, un premier
Jeune
nom.
Jeune
et Gaulerie.
Ça, c'est la
OCS.
Série.
Voilà. Ben oui, mais OCS, qui est vraiment un endroit, un endroit de créativité folle. Et j'oublie quelqu'un. Et Pablo Poli, que j'adore et que je vais retrouver dans un film là après, qui s'appelle Murder Party.
Et du côté du théâtre. Alors, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais est-ce que ça.
Ça fait 5 ans. Ah, mais j'adore.
La dernière fois que je vous ai vu, moi, personnellement, c'était avec Michel Faux.
Ah, c'était incroyable.
C'était une pièce merveilleuse avec Léa Drucker.
Un amour qui ne finit pas.
Un amour qui ne finit pas.
Ouais, d'André Roussin, c'était avec Pierre Cassinière. Ouais, c'était incroyable. Incroyable.
Ah, ça vous donne envie.
Ah, oui, j'ai très envie d'aller au théâtre. Après, oui. En ce moment, oui, les projets. Ben c'est à moi aussi d'exprimer mon envie. Pour l'instant, comme je tourne, je continue à tourner. Mais
c'est peut-être un peu délicat en ce moment de se projeter dans le théâtre,
pas
sur les saisons prochaines.
Il faut se projeter. Il y a plein de séances à 18h. Alors, on va vivre un peu à l'anglaise pendant quelques temps.
Oui, on va se coucher plus tôt.
Du Nord, on va se coucher. Voilà. Bon, en même temps, c'est dans pas longtemps, c'est l'hiver, donc on peut aller dîner plus tôt, on peut en profiter. Quoi.
Ça, c'est le bon côté des choses.
Il faut continuer à se projeter, ouais. Sinon, ça n'aura qu'un temps, cette période. Heureusement, il faut tenir. Il faut vraiment tenir.
Et pour tenir, on vous invite à aller au cinéma pour voir Miss, de Ruben Alves. On l'a répété 20 fois dans cette émission, mais ça a été un coup de cœur autour de la table. On est tous d'accord.
Ça vous a fait du bien.
Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait sourire. Ouais. Et puis, ça nous a permis aussi de discuter ensemble.
Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de liberté.
Il est un film qui a beaucoup de subtilité. Et c'est pas la majorité des films qui ont ça en ce moment.
Et pour que Daniel le dise, c'est que c'est très très subtil.
Merci Daniel beaucoup.
Daniel, il est temps de présenter vos excuses, Daniel.
Absolument. Alors déjà, désolé pour Danny Briand, il m'a appelé à la pause. Il m'a appelé pour me dire qu'il voulait que Guillermo Guise arrête, stop définitivement d'utiliser Suzette comme sonnerie portable. Il paraît que c'est très mauvais pour son image. Il m'a dit, il préférerait même être associé à Émile Louis. Je vous comprends, Dany. Désolé pour la région Champagne-Ardenne dans son ensemble. J'ai eu le responsable de l'office du tourisme à la pause au téléphone. Décidément, j'appelle beaucoup à la pause. Et autant, ils sont plutôt fiers d'être représentés par Pascal Arbillot.
Oui, très belle.
Autant région. L'image de Morgane Cadignan. C'est différent. Désolé pour les pilotes de rallye qui se sont inscrits pour la traversée de la Patagonie en fumant des camels. Cette traversée n'existe pas, les amis. C'est juste Pascal Arbillot qui dit n'importe quoi quand elle cherche une réponse qui ne vient pas.
Allez donc voir Miss avec Isabelle Nanty, Pascal Arbillot, Alexandre Véter, Thibaut de Montalembert, Stéphie Selma, aussi Quentin Fort, un film réalisé par Ruben Alves qui a avancé sa sortie d'une semaine. Oui. C'est un film qu'on aurait dû voir au mois de mars.
Oui.
Il y a un signe de se dire, allez, on précède la sortie, on va vers le public.
Pas de plateforme, on fait une sortie en salle, on avance, c'est les vacances scolaires, et aussi parce que il y a du panache d'avancer. Folie d'avancer.
On va se laisser sur ce panache, cette audace. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Arbillot, d'avoir été avec nous. Dans un instant, les carnets de campagne, et nous, demain, on se retrouve avec Jean Tellet. Oh.